Actu SF, les podcasts.
Bonsoir à tous. Bienvenue. Une table ronde dont le titre est un hommage. Demain, une oasis, roman coup de poing, roman coup de gueule d'Ayurdal en 92. Contre l'indifférence de l'Occident, de l'hémisphère nord envers l'Afrique. Le réchauffement climatique est une actualité, n'en déplaise à certains politiques. Des auteurs de science-fiction, d'un genre qu'on appelle à présent le biopunk ou la cli-fi, enfilent la casquette du lanceur d'alerte pour nous mettre en garde face à ce qui va inévitablement arriver à la planète et à l'humanité. De Jean-Marc Ligny, Aquatem, Exode, Semence, à Paolo Bacigalupi, La fille automate, Ferrailleur des mers, Waterknife, ou Andrea Sechpar, avec entre autres En panne sèche, tous ont mis leurs plumes au service de ce qui nous attend. La réalité a depuis longtemps rejoint la fiction. Les entreprises Nestlé, qui considèrent que l'eau n'est pas un droit humain, ont acheté une bonne partie des eaux algériennes et lorgnent sur les sources des Vosges. Dans un monde où le réchauffement climatique va aggraver les besoins en eau au niveau planétaire, comment considérer des sociétés privées qui s'en arrogent la propriété? Pour parler de cette catastrophe qui vient, de ses effets politiques et matériels sur la société et les idéologies, nous avons réuni trois auteurs. Trois auteurs qui, au lieu de nous plomber le moral en nous annonçant toutes ces mauvaises nouvelles, vont travailler ensemble, créer ensemble, parler de l'utopie, de comment on peut construire une autre société pour survivre à tout ça. Andrea Sechpar, auteur allemand de science-fiction qui vit en France depuis quelques années, dont le premier roman « Des milliards de tapis de cheveux » était à la fois une utopie et une dystopie. Son roman « En panne sèche » met en scène un monde dévasté par les pénuries, tandis que sa série pour la jeunesse, Le Sanctuaire, met en avant des personnages refusant la technologie. Il est publié par La Talente. Né en Angleterre, Patrick K. Dudney vit en France depuis l'enfance. Il s'intéresse activement aux alternatives sociales. Il a écrit un roman inédit sur des dangers du réchauffement climatique qu'il ne juge pas digne d'être publié. Ces deux derniers romans, qui sont les premiers d'un cycle, L'Enfant de poussière et La peste et la vigne, sont édités au Diable Vauvert. Enfin, Philippe Curval fait de la science-fiction depuis plus de 50 ans. En 2016, paraît l'intégrale de sa trilogie « L'Europe après la pluie » aux éditions La Volte, une réflexion sur l'avenir de la communauté et du continent. Auteur d'une quarantaine de titres, il est l'un des rares Français publiés aux États-Unis et récemment traduit en chinois et en arabe. Donc, comment construire l'utopie? Tout d'abord, quels sont, selon vous, les obstacles à cette utopie? Obstacles matériels, idéologiques? Qui veut répondre?
Mais je pense que c'est deux choses qui s'articulent, en fait. C'est-à-dire que la société, aujourd'hui, on est quand même à la fois embrouillé dans un certain nombre de coutumes. Ces coutumes ont un effet mécanique sur nos comportements. Et en fait, c'est difficile, je pense, d'arriver à identifier précisément le point où les coutumes cessent. Enfin, en gros, voilà, à quel endroit se trouve le siphon, quoi. Mais je crois que c'est, pour moi, c'est vraiment une combinaison des deux choses. J'ai plutôt une lecture matérialiste du monde, donc j'aurais tendance à parler tout de suite d'économie. T'as parlé tout à l'heure des multinationales, donc je pense qu'on aura l'occasion de creuser un peu ça. Mais pour moi, c'est clairement ce duo, en gros idéologique, qui essaye de ne pas en avoir l'air, et l'effet concret du système économique dans lequel on vit.
Et tiens, Philippe Curval, qui a accès à l'utopie aujourd'hui?
Qui
a accès à l'utopie?
Très peu de gens, sauf ceux qui pensent être dans une utopie, comme ceux qui, par exemple, sont dans des sectes. Mais pour moi, finalement, ce qui est très important, c'est de penser quand même qu'il y a une solution. Il y a eu des tas d'auteurs, en particulier Charles Fourier, qui a créé des utopies. Toutes les utopies aujourd'hui sont mortes, puisque même l'utopie communiste, l'utopie musulmane, toutes les utopies qui ont existé sont actuellement complètement en déshérence. C'est pour ça que je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est que, à la base, l'être humain a besoin de se réunir, puisque finalement tout est parti d'un système tribal. Et finalement, l'homme n'est pas profondément démocrate par essence. Il se réunit et il crée des petites sociétés au départ de l'existence de l'être humain pour former des petites tribus de façon à faire des utopies qui luttent contre les autres utopies qui sont autour d'eux, puisque finalement ils se réunissent de façon à pouvoir équilibrer à la fois les aliments, la façon de travailler, les mariages, les enfants, etc. Donc il y a une volonté profonde de l'être humain de se réunir par petits groupes d'abord, puis de groupes de plus en plus grands, puisque finalement les tribus se rencontrent et se métissent. Et finalement tout ça est profondément un mouvement vers une utopie générale. Mais bon, il se trouve que profondément l'être humain n'est pas quelqu'un d'extrêmement bon par essence. On le voit depuis toujours et qu'il n'a pas tellement fait de progrès depuis le commencement du monde. Et je pense qu'au-delà de la démocratie, justement, qui est une forme d'utopie qui est aujourd'hui quand même commence à être contestée, parce que finalement, elle a ses limites, il y a une possibilité, je pense, en science-fiction, de proposer des finalités différentes en voyant l'homme sous un autre angle. C'est par la différence de l'humanité, la façon dont les hommes de l'avenir pourront évoluer, qu'on pourra penser à faire une utopie. D'ailleurs, je tiens à rectifier une chose, c'est qu'utopie veut dire lieu qui n'existe pas, tandis que dans la collection où est paru mon utopie qui s'appelle Demain, un jour, un souvenir de Lotti, c'est l'utopie, c'est-à-dire le lieu heureux, qui est complètement différent de l'utopie, qui est le lieu par essence, mais inconnu.
Là, j'ai une. Vas-y, Andreas.
Non, je suis ici pour apprendre comment faire une utopie. Que je peux croire. C'est difficile.
Comment construiriez-vous une utopie, vous trois? Sur quelle base? Je les force à réfléchir, je suis une sadique.
La science-fiction est concernée plutôt avec des menaces, des évolutions dangereuses. Et j'écris beaucoup de mes romans pour faire un scénario quand je veux. Il va jamais exister. L'utopie, je pense, doit être l'inverse. Je cherche, mais je ne sais pas comment construire une utopie.
Moi, je pense que peut-être qu'à la base, il faudrait d'abord s'accorder sur une définition de ce que nous sommes, finalement, parce que, enfin, d'après ce que tu disais, Philippe, à l'instant, par rapport à de quelle façon les hommes se comportent, et tu parlais de l'homme par essence. Moi, je crois pas que l'homme soit quoi que ce soit par essence, en fait. Et je crois que si on lit l'œuvre, on va dire globale des sciences humaines sur ces 70 dernières années, les conclusions des gens qui ont passé leur vie, en fait, à étudier comment, à essayer de comprendre comment on fonctionne, disent à peu près la même chose. C'est-à-dire que, en gros, la seule nature qu'ils veulent bien nous prêter, c'est celle d'être extrêmement plastique. Donc, à partir de là, si on essaie de s'extraire d'une vision moraliste de l'humanité, c'est-à-dire si peut-être on essaye de se concentrer sur le matériel, en essayant de nous défaire de des choses immatérielles qui sont de toute façon des constructions, peut-être que c'est à partir de là qu'on peut commencer à construire l'utopie. En ce sens, peut-être que finalement, c'est la science qui pourrait être une sorte de base pour la construction d'une utopie.
Tu veux répondre ?
Oui, mais je pense quand même, donc, la science-fiction par elle-même, c'est une question que je me posais, c'est est-ce qu'un roman de science-fiction n'est pas une oasis en soi-même ? Est-ce que le lecteur n'essaye pas, même à travers toute littérature, un livre est une sorte d'oasis de la Terre ? On se pénètre dans un monde totalement différent, qui est totalement en dehors de soi-même, et donc on traverse un désert, le désert de sa propre existence, et on arrive dans une oasis qui est celle d'un livre, où l'auteur, tout d'un coup, vous fait découvrir des mondes tout à fait différents, où on retrouve une source, parce que finalement, qu'est-ce qu'est une oasis ? C'est d'abord une source. Et moi, personnellement, je prends les choses, puisque profondément je suis d'origine et de conviction anarchiste, sur le livre de Stirner qui s'appelle « L'unique et sa propriété », pour lequel, finalement, l'être humain n'a pas de limite à ses désirs et à ses volontés. Elle n'en a qu'une, c'est celle du désir et de la volonté de l'autre. Donc à partir du moment où on réunit, en particulier dans cette petite utopie que j'ai écrite, si on réunit des gens de l'univers entier, de la galaxie entière, sur une planète artificielle où, justement, on respecte ces règles, parce qu'il y a une sorte de métissage culturel qui se produit, qui donc va faire une espèce de révolution permanente, parce que finalement, l'utopie ne peut fonctionner qu'à travers une révolution permanente. Dès que les choses se stabilisent, l'utopie s'effondre. C'est à partir d'une pensée qui se renouvelle qu'on peut évoluer à travers cette possibilité de créer une utopie.
Et donc, comment l'organiseriez-vous ? Quelle serait pour vous l'organisation idéale d'une société utopique ?
Je parle des histoires. Il existe déjà des avenirs utopiques, mais ils sont toujours créés par l'intervention des extraterrestres. Par exemple, Perry Rhodan, ça commence avec l'arrivée des extraterrestres. Même Star Trek, qui est un peu une utopie, commence avec le contact avec des Vulcaniens. Alors, je pense pour construire une utopie qu'on peut croire, il faut éviter l'intervention des extraterrestres. Et je dirais même l'intervention d'une intelligence artificielle qu'on construit, tout ça. Moi, je demande que cette utopie est créée par nous-mêmes. C'est le principe numéro un que j'ai trouvé maintenant.
Philippe ?
Oui, mais je pense au contraire, moi, que c'est par le métissage, c'est par l'assemblage. Parce que, bon, évidemment, si on parle du point de vue purement terrestre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer aller dans l'espace et assez loin et même réunir les peuples de la galaxie sur une seule planète artificielle, en l'occurrence. Je crois quand même qu'à partir du moment où on crée un lieu qui est justement le lieu utopique, c'est-à-dire une planète artificielle créée dans l'espace pour réunir parce que je crois profondément que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants dans l'univers, parce que finalement, ça me semblerait quand même une aberration. Et donc, je pense qu'il y a d'autres êtres. Simplement, on ne peut pas se réunir à cause de la distance. Mais à partir du moment où on franchit tous ces obstacles les uns après les autres, donc on rentre évidemment dans une démarche utopique. Et là, on brise à peu près tous les tabous qui nous régissent. C'est-à-dire que, donc, dans l'ensemble, la science-fiction, c'est la dystopie. Pourquoi ? Parce que c'est parce que des gens ont construit un projet d'utopie que finalement ce projet d'utopie avorte. Tandis que là, si on crée un milieu totalement différent, où les êtres sont totalement différents, y compris les humains, qui se rassemblent, on peut, à travers un récit de science-fiction évidemment, pas dans la réalité quotidienne, parce que je me projette étant donné que je suis un auteur qui parle du futur, donc je parle d'un futur très éloigné, Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse réaliser une utopie dans les quelques jours qui viennent, ni même dans les quelques siècles qui viennent, à moins que l'être humain, comme disait Patrick tout à l'heure, change complètement de personnalité. Donc alors là, on arrive dans quelque chose qui est assez éloigné de moi, c'est-à-dire le transhumanisme. Mais je pense que c'est parce que l'homme peut se transformer lui-même qu'il peut un jour parvenir à créer une utopie.
Patrick ?
Je pense que, puisque ta question, tu demandais quelles sont les contraintes matérielles, en gros. Comment construire l'utopie ?
Comment organiserais-tu ?
Organiser l'utopie. Mais je pense que la base, c'est, si je devais aujourd'hui procéder à l'organisation de l'utopie, je pense que... C'est paradoxal que le choix m'en incombe, puisque moi je serais pour une organisation horizontale, donc le fait que tu me places un peu en le chef des anarchistes, le chef de l'utopie.
C'est pour ça que je te demande quelle organisation.
Je suis anarchiste aussi, donc je crois que quelle organisation, pour moi, elle est clairement l'avenir, c'est l'horizontalité. Je crois qu'on a suffisamment testé l'horizontalité pour constater à quel point ça marche pas et à quel point c'est aliénant.
La verticalité, excuse-moi.
Oh, le lapsus, c'est horrible. La verticalité, donc. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que si on ramène la chose à des considérations purement matérielles, c'est là où on peut se retrouver en tant qu'être humain, au-delà des divergences d'ordre idéologique. Ça, c'est des choses qui doivent s'installer plus tard. Pour moi, la base, par exemple, aujourd'hui, tu parlais des multinationales tout à l'heure, je crois que peut-être la première chose que j'essaierai de faire ou d'organiser, si on doit raisonner à l'échelle planétaire, puisque j'imagine que quand tu parles d'utopie, tu parles de quelque chose de global.
Si c'est juste pour trois pelés, deux tondus, bien blancs et.
Il y a des utopies comme ça, effectivement, mais elles sont. Je risque de partir dans tous les sens, donc non, je vais mettre pause. On revient à l'échelle du globe. Je pense que peut-être la première chose que je ferai, c'est essayer de. Ah, j'ai pas le mot en français, en anglais c'est survey. Faire une étude de quoi disposons-nous, en fait. En termes de ressources, je parle très très simplement. En fait, on le sait pas réellement. Il y a beaucoup d'études morcelées, parcellaires, certaines publiques, mais pour beaucoup sont la propriété des grandes multinationales. Justement, quel est l'état précis de nos ressources ? Pour moi, ce serait la base. Arriver à établir le vaisseau Terre est en train de transiter à travers l'espace. Qu'est-ce qu'il y a à son bord ? En fait, la réalité, c'est que pour l'instant, on ne le sait pas. Donc pour moi, ça, ce serait la base.
Seuls les pilleurs le savent.
Peut-être.
Et avec ou sans technologie ? En décroissance ou avec la technologie, avec... Un avenir scientifique, technologique.
Oui, bien sûr, nous sommes une espèce qui est reliée avec la technologie depuis nos premiers pas. L'homme ne peut pas exister sans technologie. La première technologie, c'était le feu. Et depuis ça, tout vient de ça. Alors, un avenir, c'est forcément un avenir de... avec technologie. C'est la question est comment utiliser la technologie pour notre bien et pas pour notre mal.
Philippe ?
Oui, on revient d'ailleurs un peu au mouvement qui a agité la science-fiction dans son ensemble. C'est-à-dire que je parle de la science-fiction anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'au début, il est évident que le progrès scientifique était véritablement la base de la réussite et de la possibilité de l'homme d'accéder à un avenir différent. Or, on s'est rendu compte à partir des années 50, quand l'écologie a commencé à pointer son nez dans l'univers des progressistes à tout craint, Il y a eu une série d'auteurs américains comme Shakley, comme Sturgeon, comme bien d'autres, qui ont pensé quand même qu'il y avait une halte à mettre dans cette espèce de folie complètement orientée vers le progrès scientifique à tout craint, au mépris de tout ce que ça provoquait comme inconvénient par la suite. Donc il est évident que pour modérer la technologie, pour modérer, je ne dirais pas la recherche scientifique, parce que la recherche scientifique, si elle n'est pas, si elle n'a pas d'application directe, on peut penser quand même qu'il y a un modèle qui peut être suivi et développé. Mais par contre, il est évident que si on arrive à maîtriser la technologie de façon à ce qu'elle ne soit pas prédatrice, on devrait pouvoir, mais il faut véritablement une réflexion globale et mondiale, arriver à progresser dans ce domaine. Et progresser non pas au sens du progrès à tout prix, mais progresser pour l'avenir de l'homme et pour à la fois sa sécurité, la façon de se comporter entre les êtres humains. Personnellement, il y a une chose qui m'a toujours fasciné, c'est aussi une voie vers l'utopie, c'est la télépathie. C'est une chose absolument monstrueuse et en même temps extraordinaire, parce qu'à partir du moment où chacun peut pénétrer l'esprit de l'autre, je parle vraiment en auteur de science-fiction et non pas en constructeur d'utopie, à partir du moment où la télépathie existe, on abolit un nombre de choses considérables, puisque à travers ces espèces d'échanges d'idées sans la parole, mais simplement à travers l'esprit des gens, il y a une espèce d'apaisement qui peut se produire sans cette espèce d'affrontement physique qu'il y a entre les êtres humains. On sait bien, par exemple, que quand trois personnes montent dans un ascenseur, tout le monde se tourne les uns les autres, parce qu'il y a une espèce de frottement vertical des uns vis-à-vis des autres qui fait que, il y a, malgré que tout le monde soit envie d'être ami des êtres humains, il y a quelque chose de fondamental chez l'être humain qui a du mal à se rapprocher de l'autre, sauf dans les circonstances exceptionnelles, en particulier l'amour. Je reviendrai là-dessus, sur la sensualité. Donc à partir du moment où je pense qu'on peut créer une société télépathe, mais ça, je ne sais pas comment on fait, on a procédé à des quantités d'expérience dans ce domaine, en mettant des gens dans un sous-marin et puis en mettant d'autres gens à terre, en retournant des jeux de cartes pour voir si on obtenait effectivement un meilleur résultat par la télépathie. Bon, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu aucune preuve que ce soit que la télépathie puisse exister. Mais pourquoi pas, à partir du moment où on connaîtra véritablement le cerveau humain, parce qu'actuellement, un des mondes les plus inconnus que nous ayons sur Terre, c'est quand même bien le cerveau humain.
Patrick,
donc est-ce qu'il faut parce que je suis tenté de répondre en fait à Philippe. Moi, ce que tu dis, ça m'évoque une conférence de Jérémy Rifkin qui s'appelle La civilisation empathique. Je ne sais pas si il y a des gens ici peut-être qui voient de quoi je parle ou pas, mais si vous l'avez pas si vous l'avez pas écouté ou lu, je vous le recommande vivement. Lui, sa théorie, c'est que, enfin, tu parlais de télépathie. Lui, il projette l'invention d'Internet comme étant une grande avancée à ce niveau-là, et enfin pas particulièrement les réseaux sociaux, mais on va dire Internet dans son ensemble, comme sorte de véhicule d'empathie, puisque enfin en réalité c'est de ça dont tu parles, quoi, enfin l'empathie absolue. Et c'est très très intéressant cette conférence, parce qu'en fait Rifkin retrace l'histoire de l'humanité et en fait notre évolution sociale par le biais de on va dire selon l'angle de l'empathie et de quelle manière l'empathie se développe. Et peut-être je fais une micro-parenthèse là-dessus, mais je peux en parler pendant, enfin ouais non je vais faire une micro-parenthèse. En fait tout ça part, je vais essayer d'être succinct, tout ça part en fait d'une expérience en Italie dans les années 50 où en fait comme toutes les, non c'est horrible de dire ça, comme un certain nombre d'expériences scientifiques majeures, ça se fait complètement par accident. En gros, il y a c'est la découverte de l'IRM. Il y a des expériences sur les chimpanzés dans un laboratoire italien. Et en fait, ils se rendent compte au moment de la pause repas qu'ils ont oublié d'enlever l'appareil à mesurer les IRM et d'éteindre l'ordinateur. Et que, en fait, le chimpanzé est en train de les regarder manger. Et ce qui est en train de s'activer, les zones qui s'activent dans son cerveau sont exactement les mêmes que celles qui s'activent que lorsqu'il est lui-même en train de manger. Et donc, en fait, toute la conférence part de ce constat-là, c'est-à-dire que l'empathie, c'est quelque chose qui est de l'ordre du visuel. Et donc, il retrace toute l'histoire de la civilisation et de quelle manière nous avons étendu périodiquement nos sphères d'intérêt, en fait, selon les structures sociales qu'on a adoptées. C'est-à-dire qu'on est parti de cercles empathiques extrêmement restreints, avec la famille étendue, concrètement, la tribu, quoi, les gens qu'on voyait. Ensuite, on a inventé la religion. Donc là, on a étendu notre empathie à des gens qu'on ne voyait plus, mais dont on savait qu'on partageait avec eux une sorte d'idée commune. Ensuite, il y a eu l'invention de l'État-nation. Et là, on a du coup dessiné à l'intérieur de nos têtes des lignes imaginaires et décidé qu'on était empathique ou en tout cas solidaire avec les gens qui habitaient ces lignes imaginaires. Et il définit Internet comme étant la prochaine frontière, c'est-à-dire l'outil qui permettrait peut-être d'empathiser, enfin d'étendre l'empathie à l'échelle globale. Pour répondre à ta question, je suis pas trop long, ok. Pour répondre à ta question, technologie ou pas, pour moi, je crois que la question se pose pas vraiment, c'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où la technologie, en fait, la science est découplée de l'économie, la science est un outil formidable. C'est même probablement l'outil le plus efficace qu'on ait jamais inventé. Mais ce n'est pas quelque chose qui est idéologiquement orienté ou économiquement orienté ou politiquement orienté, c'est juste un outil. Et donc, si on est dans un système où la science ou la technologie est couplée à un système économique prédatorial comme celui que nous pratiquons, la science concevra des bombes atomiques. Si on la couple à une économie qui sort de la prédation ou de la concurrence, en fait, si on s'oriente sur une économie solidaire, la science peut devenir un outil absolument formidable au service de l'émancipation de chacun, de chacune.
Pour rebondir sur cette histoire d'empathie, de société empathique, je conseille toujours la lecture de l'Odyssée de l'espèce de Roland C. Wagner, qui lui aussi retrace l'histoire de l'humanité, mais à travers son inconscient collectif. Partant de la tribu africaine, primordiale, puis se morcelant de plus en plus avec la diaspora humaine, pour se reconstruire petit à petit, avec la rencontre de l'autre et la connaissance de tous les peuples du monde. Mais maintenant, j'ai passé à une autre question. Alors, cette utopie, avec ou sans révolution ? Avec ou sans violence ?
C'est une question très intéressante, parce que beaucoup des utopies qui ont déjà existé, qui ont déjà essayé à être réalisées, commencent avec « il faut changer l'homme ». C'est une question morale. La première question, c'est comment changer l'homme dans une méthode scientifique, génétique, par force, par violence, par manipulation, etc., etc. D'autre côté, la deuxième question, une question morale, est-ce que c'est en ordre ? Une personne a des idées comment il faut changer tous les autres. Est-ce que c'est en ordre de le faire ? Nous savons dans les relations, dans l'amour, qu'il ne faut pas essayer de changer l'autre. Il faut l'accepter. Et alors, ça me donne l'idée de toutes les idées qui commencent avec « il faut changer les hommes comme ils sont » sont fausses. Alors, j'ai trouvé avec un principe numéro 2, c'est une utopie sans des extraterrestres et sans changer la nature de l'homme. Alors, la question violence, non.
Non, façon, quand je parlais de révolution, tout à l'heure, je parlais de révolution pacifique, c'est-à-dire que c'est une révolution interne, un ensemble, un groupe d'humains qui se renouvellent ensemble et qui refont l'avenir d'après un groupe commun. Maintenant, il y a une chose qui existe dans la science-fiction, c'est une forme d'utopie qui existe, par exemple, à travers Greg Egan, c'est le fait de la dématérialisation de l'être humain et donc de sa transformation en bits, et donc de plonger toute l'humanité dans un réseau en mémorisant tous les êtres humains. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passera ? Donc, dans l'ensemble, chez Greg Egan, il y a des grandes questions qui se posent à travers cette question qui, quand même, peut un jour peut-être exister si on arrive à vraiment mémoriser entièrement un être humain, toute sa conscience et toute sa personnalité, qui est quand même extrêmement d'une complexité infinie, et qu'on la plonge dans un réseau qui est une sorte d'Internet, mais un Internet vivant, où chaque être participe au réseau. Que se passera-t-il ? Mais enfin, évidemment, il y a la possibilité d'un lieu d'utopie. Andreas parlait tout à l'heure du rapport homme-femme. Je pense que la première des utopies, c'est celle du couple. Et c'est quand même là où on voit, moi qui ai vécu 55 ans avec ma femme, dans lequel nous avons eu un dialogue permanent, c'est dans le dialogue permanent qu'on peut arriver à se construire un couple. Et donc, c'est aussi donc, en permanence une possibilité d'échange et de rapprochement et de diplomatie. C'est tout un travail absolument extraordinaire. Donc, si deux personnes font un travail de 55 ans pour rester ensemble dans un état de bien-être et de satisfaction presque permanente, avec juste une fois de temps en temps une scène de ménage uniquement parce que quelqu'un a renversé un verre, qui catalyse toutes les conflits qu'il y a pu y avoir qui se sont dispersés, on peut penser qu'à partir de cette possibilité d'échange et de construction d'un couple, si on le démultipliait à l'infini, on peut aussi obtenir quelque chose qui ressemble à l'utopie. Donc on parle aussi d'empathie, qui est quand même la chose la plus profonde et la plus vraie qu'on puisse trouver. Et il faut tous essayer de trouver chez chacun quelque chose qui vous ressemble et qui lui ressemble, de façon à ce que l'échange soit permanent.
Patrick ?
Alors, moi, je crois que c'est une question très complexe. Je crois que répondre à une question très complexe par un principe qui n'adresse pas la complexité de cette question, c'est peut-être un peu casse-gueule pour poser les bases d'une utopie. Je crois qu'il faut d'abord commencer par définir ce que tu appelles violence, c'est-à-dire qu'on a tendance comme ça, nous les humains, à fonctionner par grands concepts et à utiliser des mots qui recouvrent tout un tas de choses. Et qui en fait relève essentiellement de nos projections. Dire la violence pour par exemple mettre au même niveau, je ne sais pas, pour prendre peut-être quelque chose que la plupart des gens ont vécu, la violence oppressive qu'une petite brute fait subir à la personne qu'il a choisi de harceler à l'école. La violence que cette personne harcelée peut décider d'employer à l'encontre de la brute qui le harcèle pour faire cesser cette violence première. Donc en fait, la distinction que beaucoup de politiques et beaucoup de théories politiques font entre la violence émancipatrice et la violence oppressive, je crois qu'il est fondamental de la poser. À partir du moment où on est face à un système qui use d'une violence structurelle incroyablement forte à l'encontre de tout ce qui est subversif et en fait à l'encontre de tout ce qui essaye de construire des utopies, vous avez à côté de la ville de Nantes la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ceux qui ont été faire un tour là-bas pour constater avec quelle vigueur fut défendu, on va dire, les idéaux basiques de cette civilisation dont on s'entend tous plus ou moins pour dire qu'elle va à peu près dans le mur, en tout cas en termes écologiques. Pour moi, ouais, ça soulève. Je crois que j'ai pas envie de trancher sur cette question de manière sur la question de l'usage ou non de la violence politique de manière définitive. Vive la commune.
Et je vais vous donner la réponse qu'aurait fait Ayordal à cette question. Le PAL. Et maintenant, je vais me tourner vers vous tous et vous demander si vous avez des questions, des idées, des remarques, si vous avez des utopies que vous voulez partager avec nous. C'est à votre tour.
Alors en fait, c'est pour savoir, pour les utopies, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, même si je ne suis pas un auteur, je suis plutôt des pensées un peu science-fantasy, en fait, c'est un peu entre science-fiction et fantasy, en fait, est-ce qu'on aurait une utopie, genre, pas que technologique, mais également, l'être humain serait transcendé, en fait, avec des capacités, genre, surhumaines, en fait, qu'on peut dire surhumaines actuellement, en fait. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que l'avenir, une utopie comme ça, ça pourrait peut-être mettre l'être humain dans une nouvelle façon d'exister, en fait, en tant qu'être qui a transcendé sa condition de mortel, en fait, pour devenir quelque chose de plus puissant, en fait, plus que comme ça, de tout nouveau, en fait, peut-être pour communiquer avec d'autres espèces. C'est un peu une façon pour moi de voir une utopie un peu... entre une utopie sans fantaisie. Bon, c'est un peu cette façon-là.
Je suis navré, mais je n'ai pas compris la question.
En fait, c'est que j'ai une utopie. Je sais que c'est souvent science-fiction, mais moi, je suis un peu science-fantaisie. En fait, l'utopie que j'ai imaginée, en fait, c'est plutôt une utopie en fait, où l'être humain, en fait, s'il avait par hasard découvert des pouvoirs, en fait, quelque chose de... qui peut changer en fait, en plus de la technologie, peut-être qu'on aurait du coup une utopie en fait, où on serait délivré de notre condition physique pour avoir accès à de nouvelles capacités en fait, genre des trucs qu'on n'aurait pas eu avant en fait, ce qui aurait.
C'est ce qu'a proposé Philippe Curval tout à l'heure en parlant justement de télépathie et de société de rencontre avec le reste de l'univers et de métissage.
Bonsoir. Dans mon petit imaginaire, l'utopie, c'est l'endroit où il fait bon vivre. Alors, trois questions. Est-ce que l'homme peut être heureux parmi d'autres hommes? Est-ce que l'homme peut être heureux seul? Et est-ce que l'homme peut être heureux?
Que je peux être succinct ? Oui, oui et oui.
Bonjour. Tout à l'heure, on a mentionné une organisation verticale, une organisation horizontale. Ma question, c'est, imaginons, peu importe comment, on a réussi une transition vers une organisation horizontale. Quel serait, selon vous, sur le chemin qui nous mène à une telle organisation accomplie, les obstacles? Parmi ces obstacles, quels seraient celles qu'il faudrait éviter? Et quels sont ceux qu'on ne pourrait pas éviter? Et est-ce qu'ils ne seraient pas insurmontables?
Je vais juste dire une chose avant de demander à quelqu'un de répondre. C'est le thème de toute une table ronde, là.
Je pense que des organisations horizontales existe de temps en temps dans des petits groupes et tout ça. Si
à l'échelle mondiale. Hein.
Si tout le monde participe dans une manière... Par exemple, si on est en groupe où chacun a des expertises spéciales et rien, personne n'est le patron des autres, mais on est au même échelle. Ouais, ça existe naturellement. Alors, ce n'est pas impossible, une organisation horizontale. C'est une question de dimension. C'est peut-être en relation avec le tribut.
Mais est-ce que justement toutes ces tribus ne pourraient pas communiquer entre elles et avoir une horizontalité qui lie les différentes tribus?
Moi, j'ai une expérience de journaliste. J'ai été journaliste pendant très longtemps. J'étais rédacteur en chef d'un journal. Et alors, j'ai remarqué une chose extraordinaire, c'est qu'effectivement, comme disait Andreas, il y a des tas de groupes où il y a une espèce d'empathie naturelle. Et par exemple, je faisais chaque année une réunion des 60 personnes, enfin, je n'avais pas 60 personnes dans mon journal, mais il y avait tous les participants extérieurs. Et donc, on voyait très bien qu'au bout d'un moment, tout le monde se réunissait. Et donc le journal constituait une espèce d'utopie dans laquelle tout le monde travaillait pour. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que la soirée se déroulait, les photographes allaient avec les photographes, les dessinateurs avec les dessinateurs, les journalistes avec les journalistes, les techniciens avec les techniciens. Et il y a une espèce, petit à petit, bon, tout le monde s'entendait bien au départ. D'ailleurs, personne n'avait de guerre entre les uns et les autres. Mais petit à petit, se reconstituait vraiment un système tribal par métier. Un corporatisme qui est quand même une chose fondamentale. On se rend compte que le corporatisme, bien qu'il ait une réalité indispensable pour pouvoir se défendre dans des problèmes qui se posent actuellement dans beaucoup d'établissements en France et un peu partout, il est évident que c'est quand même aussi quelque chose qui empêche de se souder, parce qu'il faudrait justement qu'il y ait des fédérations entre les fédérations.
Une rencontre.
Moi, pour répondre à ta question sur sur l'horizontalité, d'une part, en fait, ça semble utopique comme ça, mais en fait, c'est une pratique qui existe, dans plein d'aspects de nos vies quotidiennes. Je pense à l'essentiel par exemple, de la vie associative se déroule dans une horizontalité relative. On a aussi, par exemple, pour donner un exemple un peu bidon, mais dont on est entouré, genre Wikipédia, par exemple, qui, à mon sens, est un des grands accomplissements d'Internet. Enfin, aujourd'hui, on arrive à une qualité au niveau du contenu qui est comparée par les spécialistes à celle des encyclopédies dites professionnelles, Encyclopédia Britannica, etc., qui est, je crois, la référence. Pour le coup, ça a opéré selon une horizontalité absolue, en fait. Et à mon sens, après, c'est vrai que c'est, on va dire, hors de ces cercles un peu convenus, sont des pratiques qui ont lieu dans certains milieux, dont les milieux anarchistes essentiellement. Et ça fait super longtemps qu'on a ces pratiques. C'est vrai qu'il y a des écueils, genre celui qui parle tout le temps, à un moment, il faut lui dire de se taire un peu. Mais au-delà de ça, je crois que ça existe depuis suffisamment longtemps pour qu'on ait inventé des outils pour faire en sorte que ça fonctionne. En fait, c'est pas quelque chose qui est si c'est assez facile, à partir du moment où on a les outils, d'arriver à faire fonctionner de tels types de structures. Par contre, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est vrai que c'est une question d'échelle. C'est beaucoup plus facile de pratiquer l'horizontalité dans un petit groupe que dans un grand groupe. Mais là, encore une fois, Wikipédia, par exemple, c'est une structure c'est une entité qui existe de façon mondiale et qui opère selon une horizontalité parfaite. Voilà.
Même un événement comme les Utopiales, comment l'organiser sans quelqu'un qui est le responsable principal? C'est jusqu'ici inimaginable.
Bonsoir.
Oui, parce que Wikipédia, il faut quand même des régulateurs. De toute
façon. Ah oui. Oui, il y en a. Hein, voilà. Donc, mais ils sont élus par personne. Voilà.
Parce qu'on peut penser qu'une secte, c'est une sorte d'utopie. À partir du moment où tout le monde se réunit dans un ensemble où il y a un gourou, et ce gourou transmet son empathie et que chacun est séduit. Personnellement, moi, je suis passionné par cette histoire parce que, justement, je prépare un roman où, justement, c'est une utopie contre une secte. Je crois que là, il y a deux modèles qui sont un peu un reflet de l'humanité à l'heure actuelle. C'est que finalement, on a affaire dans les hommes d'État, dans les politiques, à des sectes particulières qui sont en dehors un peu du souci général de chacun. Ils le sont un peu à cause du travail qu'ils sont obligés de fournir, qui est souvent absolument énorme et qui les coupe absolument de la réalité. Mais donc, ça forme des sectes qui ont une difficulté de plus en plus grande de communiquer avec le peuple qu'ils sont censés, non pas diriger, mais épauler. Et là, je crois qu'il y a déjà un problème assez grave, le fait que, de toute façon, jusqu'à présent, chaque fois que quelque chose se passe de bien, peu à peu, d'ailleurs, c'est pour ça que toute la science-fiction se termine toujours à 90% par des dystopies, c'est que petit à petit, les inconvénients de la réunion des gens se distillent dans les esprits et petit à petit, des groupes se forment les uns contre les autres. Et donc, on a vu tout à l'heure l'exemple des groupes empathiques. Après, on a des groupes dyspathiques qui, finalement, empêchent l'utopie de se réaliser. Et donc, chacun se réfugie dans son oasis.
Mais je crois que par rapport à tout ça, il y a aussi peut-être une question qu'on n'a pas forcément abordée, mais qui est importante. On a parlé de l'espace, en tout cas des distances, de ce qui sépare. On n'a pas parlé du temps. En fait, je crois que la question de temporalité, elle est essentielle dans la notion d'utopie. Parce qu'il me semble que l'attente que nous avons tous, la manière dont on projette tous, quelques notions que ce soit réellement, à partir du moment où on essaie de la plaquer sur quelque chose de social, l'un des prérequis pour que nous l'acceptions comme possible, ou en tout cas souhaitable, c'est une sorte de viabilité. On attend de notre organisation politique qu'elle possède une sorte d'immortalité qui est complètement, déraisonnable. En quoi est-ce que on peut dire que une expérience humaine menée, je ne sais pas, sur 15 ans, 10 ans, 5 ans, 6 mois, enfin, en fait, c'est quoi le critère pour dire qu'une expérience sociale a fonctionné? Pour moi, ce qui compte, c'est que nous aménagions des espaces pour expérimenter, en fait, pour prendre des risques en tant qu'espèce, parce que très simplement, si on se soumet aux règles que nous avons pu observer, enfin que la science a pu observer par rapport à la, je pense très simplement à la théorie de l'évolution. Dans la nature, ce qui meurt, c'est ce qui se spécialise, c'est ce qui est monolithique. Dans la nature, ce qui survit, c'est ce qui est multiple et qui est différent. Et aujourd'hui, on arrive à un stade dans nos sociétés, et par le biais de la mondialisation notamment, mais on arrive à une forme d'uniformité culturelle, économique, politique, idéologique, qui en fait nous vulnérabilise considérablement en tant qu'espèce, et on ne s'aménage pas des espaces qui pourraient nous aider à survivre à l'imprévu, tout simplement.
C'est Robert Heinlein qui disait que la spécialisation, c'était pour les insectes. Il y avait une dernière question, quelqu'un qui avait même commencé à parler, je crois.
Oui, bonsoir. Et c'est par rapport à cette question aussi d'uniformité dont tu parles, mais moi j'avais envie de faire référence à Ursula Le Guin, dont on a vu un documentaire hier, qui elle parle d'utopie ambiguë. Et justement, si on veut imaginer des mondes beaucoup plus horizontaux, et du coup ce qui veut dire dans l'émancipation et où tout le monde a sa voix, c'est aussi ça. C'est de réfléchir la question du désirable à partir d'une utopie, comme elle dit, ambiguë, mais on va dire plutôt merdique. Et que si on place un niveau inaccessible l'utopie, moi ce qui m'intéresse, et avec le groupe dans lequel je suis, les ateliers de l'Antémonde, on réfléchit à qu'est-ce qui est désirable et vers quoi on veut aller maintenant. Et c'est ça aussi qui est important, parce qu'on est entouré de dystopies, et de se dire qu'est-ce qu'on voudrait faire changer, qu'est-ce qui nous semble indispensable. Donc j'avais envie de vous poser la question de quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous voudriez là changer si vous aviez la possibilité.
Vos indispensables, en quelque sorte.
Le problème fondamental, c'est que l'adversaire de l'utopie, c'est l'idéologie. À partir du moment où on essaye de définir un axe parfait pour arriver à une utopie, on se rend compte toutes les... par le communisme, par exemple, l'histoire de l'URSS, qui part d'une idéologie absolument fondamentale. Malheureusement, une fois qu'elle est traitée par les hommes, cette idéologie qui devrait amener à une utopie se transforme du fait de la nature foncière de l'être humain en une véritable dystopie qui finit par s'écraser d'elle-même.
Malheureusement, ce sera la dernière réponse, parce qu'il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir rejoints, et bonne soirée.